Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serre la main, me serre la main, serre la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mona, la maman de Panthéa. Avant d'avoir sa fille, Mona menait une vie un peu superficielle, et la maternité a tout changé pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles, à quelques mois, sa fille montre des symptômes inquiétants qui vont mener à une longue attente de plusieurs mois avant d'obtenir le diagnostic final. Panthéa est atteinte d'une maladie très rare. Dans cet épisode, Mona nous raconte son parcours depuis l'arrivée de sa fille chérie, de sa persévérance sans faille qui lui a permis d'obtenir un diagnostic, de l'équipe solide que forme son couple et de leur quotidien avec un enfant en situation de handicap. Bonne écoute.
Bonjour Mona, merci beaucoup de me recevoir à l'Atelier Pastel pour ce nouvel épisode.
Bonjour, bienvenue.
Alors toi, tu ne voulais pas d'enfant à la base?
Ouais, j'étais pas du tout dans l'optique de me dire qu'un jour j'aurais des enfants, que je serais en couple, oui, mais je me voyais pas du tout avec la vision de la famille idéale. J'aimais pas les enfants, pour pas dire je les détestais. Et du coup, je me disais la maternité, c'est pas pour moi, quoi. Ça serait la fin de ma vie si j'avais un enfant.
C'était quoi qui te faisait peur?
En fait, j'avais pas peur, mais je trouvais ça. Je dirais pas inutile parce que le mot est fort, mais c'était plus ça serait la fin de ma vie, je pourrais plus rien faire, je serais responsable de quelqu'un, et puis je sais pas, pour moi l'enfant c'est le truc qui braille, qui m'emmerde, pardon, mais qui quand je prends le train, quand je prends l'avion, qui se mord dessus, voilà. Donc c'était vraiment, j'avais une vision horrible des enfants.
Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Mon homme. En fait, c'est vraiment quand je l'ai rencontré, très peu de temps après, j'ai eu une nouvelle vision du couple, de la vie à deux. Et en fait, c'est venu un peu naturellement. Lui, il avait envie d'avoir des enfants. Et en fait, plus on était ensemble, et plus je me disais, mais oui, en fait, je crois que j'ai vraiment envie d'être maman. Sans trop réaliser qu'en fait, j'avais envie de l'être. Donc, vraiment, même quand on s'est dit, c'est peut-être maintenant. Et que j'avais arrêté du coup la pilule, je me disais toujours bon, ça fait des années que tu fumes, t'as toujours pris la pilule, de toute façon t'es tranquille, ça arrivera pas tout de suite, donc t'as le temps de t'y préparer psychologiquement. Et ben non, on a fait un bingo, donc la première fois c'était la bonne. Et du coup quand je me suis, déjà j'étais un peu dans le déni, c'est-à-dire que mes règles avaient beaucoup de retard. J'avais une de mes amies qui arrêtait pas de me dire mais cocotte, tu dois être enceinte. J'ai dit mais non, mais n'importe quoi, tu viens, j'ai mal au ventre, ça va arriver, là je sens que c'est le moment où mes règles vont arriver. Et du coup comme ça pendant au moins deux semaines et demie, et puis au bout d'un moment elle m'a dit écoute, vraiment va acheter un test et fais-le, quoi. Et j'ai fait le test, c'était sans équivoque, j'ai même pas eu besoin d'attendre 30 secondes. Et là en fait, au lieu de hurler de joie, je me suis assise toute seule sur le lit et je suis là, ok, donc en fait là je suis contente ou je suis pas contente, c'est ce que je voulais, mais est-ce que je le voulais vraiment maintenant, etc. Donc ça a été un peu compliqué, et du coup je l'ai appelé et il était en bas et je lui ai dit écoute, en fait je suis enceinte. Donc ça n'est pas du tout tu sais, tu mets des petits chaussons dans une boîte, c'est trop romantique, tu l'invites, non, c'était vraiment je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Il dit ah mais c'est génial, etc. Et en fait je lui dis ah bon, c'est génial, enfin j'étais vraiment dans le est-ce que c'est vraiment génial finalement? Est-ce que c'est le moment, etc. Donc j'arrête pas de dire, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment finalement? Et il me dit, de toute façon, c'est jamais le moment. Donc il y aura toujours une excuse pour faire en sorte qu'on n'ait pas un enfant maintenant, soit parce que t'es pas dans une bonne situation financière à ce moment-là, parce que tu commences professionnellement à bien marcher. Enfin voilà, il y a toujours des trucs qui font que. Et puis du coup, il m'a dit, non mais là, c'est le moment de toute façon, voilà. Et Et après, ouais, bah, donc on est parti comme ça, quoi. Après, bon, il y avait toujours un... Il y a toujours des hauts là, moi, dans ma vie. Mais en fait, j'ai une maladie génétique de l'oreille, donc normalement, qui mène à la surdité et qui est... et qui peut s'aggraver très rapidement et, avec les hormones de grossesse. Donc, c'était un risque. Donc, j'ai dit, bah écoute, maintenant que je suis enceinte, il faut que j'appelle mon chirurgien ORL et il faut qu'on aille le voir. Donc, je suis allée le voir quelques semaines après et il m'a fait des tests auditifs. Il m'a dit, écoutez, là, objectivement, votre audition n'a pas vraiment bougé. Donc, prenez le risque. Gardez l'enfant. Si jamais il y a une chute brutale d'un coup pendant la grossesse, vous venez me voir en urgence et on voit ce qu'on pourra faire. Bien que le fait que vous soyez enceinte va forcément limiter ce que je pourrais faire. Mais gardez l'enfant, n'ayez pas peur et allez au bout, quoi. Donc, j'étais un peu plus rassurée. C'était un peu plus difficile de dire à ma maman parce que forcément, pour elle, c'était « Mon Dieu, tu vas être sourde ». Et voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé ma grossesse.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Je dis toujours, j'ai pas aimé être enceinte. Moi, je fais pas spécialement partie des femmes qui sont super épanouies enceintes. Pourtant, j'ai eu ni nausée, ni douleur, rien du tout. J'ai pris beaucoup de poids. J'en avais rien à faire à ce moment-là. Bien sûr, sur les dernières semaines, c'était très difficile, beaucoup de crampes, de douleurs, de choses comme ça. Mais j'étais très inquiète. En fait, moi, toute ma grossesse, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, il va lui arriver un truc, c'est sûr, il va lui arriver un truc. Et tout le monde dit, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu stresses autant? Je me dis, je sais pas, j'ai l'impression que je vais perdre cet enfant, il va y avoir un truc. J'étais vraiment hyper angoissée, en fait. Et comme finalement la grossesse était beaucoup plus médicalisée que ce que j'imaginais moi, j'avais pas ce truc de l'épanouissement, j'avais juste l'impression que j'avais le droit de rien manger, qu'on faisait des prises de sang tout le temps, que voilà, enfin c'était très bizarre. Alors les premiers mois j'étais très excitée parce que du coup je passais mon temps sur des forums de femmes enceintes à lire plein de trucs. J'étais enceinte de 3 mois que j'ai recommencé à décorer la maison, à vouloir faire sa chambre, enfin j'avais pas du tout ce truc de me dire attention, ça peut porter malheur. Mais c'est vrai que moi je me suis vraiment sentie maman le jour où j'ai accouché. Avant ça, même quand mon ventre bougeait enceinte, je sais que les femmes, elles adorent filmer leur ventre qui fait des vagues. Moi, c'était pas possible. Même aujourd'hui, même en étant maman, quand je vois des vidéos de peau qui gondole, là, je peux pas. Je me dis, mais mon Dieu, oh, mais comment le corps peut faire un truc comme ça? C'est pas possible, quoi. Donc, j'ai jamais eu ce rapport à la grossesse sympathique.
Et alors, quand tu as accouché de ta petite Panthéa, donc une petite fille, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Oui, bizarrement ça a été immédiat. Bon, quand j'ai accouché, l'accouchement était un peu spécial, mais dès l'instant où je l'ai vraiment eu avec moi, déjà un, je me suis sentie maman. Ça veut dire que ça a été dès la première seconde où je l'ai vue, le premier truc qui m'est sorti, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue au monde. Alors la chose, effectivement, c'est un peu. Et Cadio me dit encore, c'est extraordinaire parce que moi je la regardais, je me dis mais elle est haute. Horrible, elle est toute maigre, elle a des gros yeux globuleux et l'autre elle me dit que c'est le truc le plus beau qu'elle ait jamais vu de sa vie. Mais en même temps, ouais, ça a été tellement fort, tellement intense dès le premier instant et derrière, bizarrement, bah, j'avais pas peur. Alors que j'avais hyper peur pendant toute ma grossesse, mais là ça y est, elle était là, elle était devant moi, donc j'avais plus du tout toutes ces inquiétudes là à ce moment-là.
Tu disais que tu avais eu un accouchement un peu spécial, tu l'as eu tout de suite en peau à peau quand même, Panthéa, ou t'as été séparée?
Non, en fait, son rythme cardiaque a chuté d'un coup. Et j'ai failli passer en urgence pour une césarienne. Mmh. Et donc, ils m'ont dit, voilà, vous avez 5 minutes pour la faire sortir ou c'est la césarienne. Parce que là, et en fait, j'avais tellement peur parce que on entendait le rythme. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, le docteur qui me suivait pendant ma grossesse, qui était là ce jour-là, donc c'était hyper rassurant pour moi, elle a carrément éteint tous les appareils pour que j'arrête d'entendre. Et je tremblais tellement que j'avais perdu mes moyens. Je me disais, je suis en train de perdre mon bébé, en fait. Et c'est Cadio, en fait, qui arrêtait pas de me dire dans l'oreille, calme-toi, concentre-toi sur moi, regarde que moi. Et en fait, c'est vraiment le regardant. Et là, quand ils m'ont dit 5 minutes pour le sortir, il m'a dit, tu t'es transformée, mais en Sangoku, quoi. Il m'a dit, t'as hurlé, t'as poussé comme une malade. Et donc, elle est sortie, mais en fait, forcément, elle était un petit peu en souffrance. En plus, elle avait le cordon qui s'était enroulé, elle avait avalé du liquide, donc j'ai eu le temps de la voir, quelques secondes, et puis ils l'ont emmenée tout de suite, et ils m'ont dit, donc là, elle part avec son papa et les médecins, et on vous dira si elle va en néonat ou pas, et finalement, ça a été, puisqu'ils me l'ont amenée, je peux pas dire combien de temps après, et moi, j'ai fait une hémorragie derrière, enfin, c'est un rêve, c'était un peu, c'est sport.
Et alors toi, au début, t'étais très fusionnelle avec ta fille, et tu avais du mal à la laisser à ton chéri.
Ouais, et encore aujourd'hui, je suis très chiante. Mais en fait, déjà, je suis restée avec Panthéa pendant des mois, sans travailler parce que j'arrivais pas à la laisser. Pourtant, j'avais ma maman, donc elle aurait pu rester avec ma maman. Mais j'avais vraiment une relation très fusionnelle avec elle. Même après, quand elle est devenue un peu plus grande, il me disait, mais tu veux pas qu'elle aille en crèche? Non, mais ça va pas, jamais pas en crèche. Elle est trop petite, elle a besoin de nous. Enfin, et encore aujourd'hui, j'ai cette relation, sauf que elle a une relation très fusionnelle aussi avec son papa, mais je suis tout le temps inquiète. Dès qu'il joue avec elle, attention, fais pas ça, attention, elle va tomber, ne la jette pas trop, ne fais pas ça. Et donc, même pendant très longtemps, il avait pas le droit de sortir seul avec elle. Je me rappelle d'une fois où il m'a dit, je peux sortir avec Panthéa, on va se promener? Non. Il me dit, bon, de toute façon, je savais que t'allais dire non, j'ai demandé pour, maintenant plus du tout, hein. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais hyper inquiète tout le temps, quoi.
Et ça vient d'où, ça, à ton avis?
Je sais pas. Parfois, bah, y a un médecin qui m'a dit une fois, c'est comme si peut-être dès le début vous sentiez qu'elle était pas comme les autres et que, par exemple, je la surprotégeais quand elle était assise, quand elle a commencé à pouvoir s'asseoir toute seule. Je mettais plein de coussins autour d'elle. Tout le temps. Et Kadio me dit, mais arrête, c'est de la folie, pourquoi tu fais ça? Je dis, mais tu te rends pas compte, elle peut tomber en arrière, elle peut se faire mal. Il me dit, mais non, mais elle apprendra jamais rien si tu fais ça. Et plus tard, les médecins me disent, mais en fait, l'air de rien, c'est comme si vous aviez senti, parce que effectivement, elle aurait pu tomber, effectivement, elle se rendait pas forcément compte. Et, mais oui, ça a été, et ouais, encore aujourd'hui, je suis.
Et alors, à quel moment et comment tu as remarqué qu'il y avait un souci dans l'évolution de Panthéa?
Si c'est moi, je dirais vers 6-8 mois, j'ai commencé à me dire tiens, c'est marrant, il y a des trucs qu'elle fait pas comme les autres enfants, ou il y a des trucs qu'elle fait que les autres enfants font pas. Je peux pas trop expliquer exactement ce que c'était. Et c'est vraiment vers 10 mois où là, j'ai commencé à me dire ok, là, clairement, pour moi, elle est pas comme les autres.
Tu te comparais à qui? Enfin,
en fait, ce qui est très bizarre, c'est que Panthéa, à un mois et demi, elle me regardait dans les yeux, elle répondait à mes sourires, elle était hyper éveillée. C'est-à-dire que même à la maternité, les sages-femmes me disaient, mais qu'est-ce qu'elle est éveillée, cette enfant, c'est impressionnant. Elle pleurait pas du tout. Mmh. Elle n'a jamais pleuré, pas une fois. Du coup, on savait même pas ce que c'était, en fait, qu'un enfant qui braille. Et c'est quand j'allais, je sais pas, prendre l'air un peu à la maternité, que je sortais, je voyais les papas. Alors, c'était très marrant. Tous les papas étaient dans le couloir avec les enfants et les mamans toutes seules dans les chambres. Donc, je pense qu'elle devait se reposer et qu'elle disait au papa, bon, bah, prends le petit, sort. Et moi, je trouvais ça rigolo. Je dis, mais pourquoi ils font ça, en fait, les gens? À la cool, quoi. C'est cool, un enfant. Bah oui, mais en fait, et après coup, les médecins m'ont dit, bah, en fait, ce que vous trouviez génial quand elle était bébé était déjà des signes de. Qu'il y a quelque chose qui est pas normal, parce qu'un enfant qui pleure pas pour réclamer à manger, voilà. Mais elle était tout le temps souriante, déjà. C'est-à-dire, un mois et demi, elle souriait toute la journée. Dès que je lui parlais, elle rigolait. Mais c'est vraiment plus tard, quand j'ai commencé à voir que les autres enfants faisaient du quatre pattes. Alors, les gens me disaient, non, mais tous les enfants font pas des quatre pattes. Il y en a qui marchent direct. J'ai dit, oui, mais elles se retournent pas. Oui, mais il y en a qui se retournent pas, mais pour autant, ils peuvent s'asseoir tout seuls. Oui, mais là, je vois bien qu'il y a des bababous que font les autres, qu'elle, elle fait pas pareil, etc. Et en fait, j'arrêtais pas de le dire à sa pédiatre. À chaque fois que j'avais, je dis, vous êtes sûr que c'est normal qu'elle fasse ça? Vous êtes sûr que machin? Et une fois, elle m'a carrément dit devant Kadio. Je la répète souvent cette phrase, mais parce qu'elle m'avait vraiment marquée. Elle dit, oh là là, mais vous êtes complètement hystérique, quoi. Calmez-vous deux secondes. Ça doit être difficile d'avoir une femme comme ça au quotidien, hein. Et en fait, ça m'avait déjà profondément vexée parce que je me suis dit, elle me fait passer pour une folle. Et ça m'était en colère parce que j'arrête pas de dire, mais je sais qu'il y a quelque chose et tout le monde me prend pour une folle. J'ai même une amie qui m'a dit un jour, mais on dirait que t'as envie d'avoir une enfant handicapée, en fait. Laisse-lui le temps, chacun son rythme. Mmh. Alors maintenant, la phrase que je déteste le plus au monde, c'est chacun son rythme. Ça me rend dingue, cette phrase, parce que non, des fois, c'est pas chacun son rythme. Il y a un problème, et le problème, c'est que quand les mamans, elles sentent quelque chose, bah, tout le monde a tendance à leur dire, pas d'inquiétude, chacun son rythme. Mais parfois, il y a vraiment quelque chose, donc, voilà. Un jour, elle a eu un problème de mâchoire. En plus, je suis jamais toute seule avec elle, et bien évidemment, il a fallu que ça tombe sur le jour où ma mère était absente. Kadio, il était à un mariage dans le sud, etc. Et en fait, j'étais toute seule avec Panthéa, puis elle salivait beaucoup depuis le matin, et elle faisait des trucs bizarres avec sa langue, comme si sa langue tremblait. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est quand même pas normal, là. Donc j'ai appelé la pédiatre, je lui ai dit, elle était très encombrée, et je dis, elle a l'air encombrée, j'ai l'impression qu'elle a un peu du mal à respirer, sa langue, elle a dit, écoutez, venez me voir, et tout. Donc j'y suis allée. Et elle me dit, elle a peut-être une carence en quelque chose, je vais vous prescrire une prise de sang, lundi à la première heure, vous allez faire la prise de sang et vous revenez me voir. Je lui dis, ok. Et je lui dis, par contre, elle a rien mangé. Panthéa, elle mangeait toujours très bien. Et je lui dis, elle a rien mangé. D'ailleurs, les signes qui m'ont fait dire ça, c'est qu'elle acceptait pas la cuillère, il y avait qu'une marque de biberon qu'elle acceptait de prendre. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça où je me disais, c'est marrant quand même, elle fait rien, elle pouvait pas manger un biscuit toute seule. Voilà. Et donc ce jour-là, je rentre à la maison après avoir vu la pédiatre, et en fait on est assises toutes les deux dans le salon, et elle est dos à moi, et là elle se retourne, et puis elle a la mâchoire ouverte en grand avec une espèce de grimace, mais en fait un peu comme quelqu'un qui serait en train de faire un AVC.
Ah oui.
Et donc je me dis, et là je la regarde, je dis, Bibounette, c'est quoi cette grimace? Arrête de faire ça, bébé. Et plus je dis arrête, plus je la regarde, plus je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'elle est pas du tout en train de faire une grimace, en fait. Donc je me rapproche d'elle, et là j'essaye de fermer la mâchoire, et je me rends compte que c'est bloqué. Mais bloqué. Donc là, je me dis, ok, là, il y a vraiment quelque chose. Donc, je commence un peu à paniquer. J'ai appelé la pédiatre en premier. Je l'ai appelée, donc je suis tombée sur la secrétaire, je lui ai dit, bon, elle a compris tout de suite qu'il y avait une urgence, donc là je l'appelle, je lui explique, elle me dit, écoutez, vous allez tout de suite à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, je les appelle pour les prévenir de votre arrivée, foncez. Et en fait, j'étais toute seule, et là je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule avec elle, si c'est grave. Donc j'ai appelé Cadio, je lui ai dit, écoute, il était en plus au mariage de son cousin, je lui ai dit, écoute, il y a un problème avec Panthéa, je sais pas ce qui se passe, je file aux urgences. Il me dit, ok, je prends le premier train, je rentre. Et j'appelle une de mes meilleures amies et je lui dis il faut que j'aille aux urgences, il faut que j'aille à l'hôpital, donc s'il te plaît viens tout de suite, etc. Donc elle est venue et en fait j'étais tellement finalement mal que j'ai attendu qu'elle soit là pour qu'on y aille. Et donc on est arrivé à l'hôpital et là c'était le début de l'enfer en fait. Parce que en arrivant à l'hôpital, déjà, on me dit oui, vous êtes là pourquoi? Pour une gastro, machin. Je dis non, mais on a été. La pédiatre a appelé, ils sont prévenus, il faut qu'elle voit un médecin tout de suite, je sais pas ce qui lui arrive. Oui, bon, asseyez-vous, on vous appellera. Donc là, forcément, elle perd ton moyen, donc tu te mets à hurler. Et là, il dit ok, on va la prendre, etc. Donc là, il l'emmène, et puis donc, il y a trois médecins qui viennent la voir, et puis on me dit ah oui, bah, elle s'est déboîtée la mâchoire. Et je dis comment ça, elle s'est déboîtée la mâchoire? Il dit bah oui, une luxation de la mâchoire, donc on va lui remettre en place. Et là, l'horreur. Donc, trois adultes, les mains dans la bouche d'un enfant, en train d'essayer de lui remettre une mâchoire en place. C'est très violent. Ma fille qui hurle, mais qui hurle non-stop. Elle qui pleure jamais, elle s'arrête plus. Et donc, ils essayent une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la troisième fois, je leur dis, bon, écoutez, arrêtez là. Un, c'est de la torture. Et deux, vous voyez bien que ça sert à rien. Il se passe rien et vous lui faites peur et elle a mal. Et donc, c'était terrible parce qu'en fait, ils nous ont laissés là. Un peu impuissants, ils nous ont dit, on va appeler l'hôpital Necker, on va voir avec eux ce qu'on peut faire. Et elle a hurlé et pleuré pendant des heures. Mais des heures. C'est-à-dire que même moi, je perdais patience. Mais pas vis-à-vis d'elle. Mais en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout a basculé comme ça d'un coup? Et donc, je me rappelle que mon amie, elle la prenait dans les bras pour essayer de me soulager un peu. Et finalement, ils sont revenus. Ils ont dit, bon, écoutez, nous, on peut rien faire. On ne sait pas ce qu'elle a. On ne comprend pas. Donc, demain matin, vous serez transférée à l'hôpital Necker. Je dis, et moi, tout ce que je demandais, c'est de donner lui quelque chose pour la douleur. Il faut la calmer. Là, ma fille, je la connais. C'est pas normal. Donc finalement, je sais pas, très tard dans la soirée, ils lui ont donné un calmant, donc elle a pu se détendre. La mâchoire s'est détendue un peu aussi. Et le lendemain matin, donc, on a été transportés en urgence avec une ambulance à Necker. Et là, rebelote, on arrive aux urgences et ils nous laissent poireauter pendant des heures. Donc entre-temps, elle chope un virus, elle se tape une fièvre de 40. Donc j'arrête pas de leur dire, ma fille elle est au bord du coma, là, limite elle convulse, je la ramène, elle avait juste un problème de mâchoire, maintenant elle a un problème de mâchoire et ça en plus, donc est-ce qu'on peut voir un médecin rapidement? Finalement, plusieurs heures après, on voit les médecins qui nous disent, ah oui, c'est une luxation de la mâchoire, donc vous allez transférer au service maxillofacial et là-bas ils vont s'en occuper. Et là, rebelote, c'est une luxation de la mâchoire, c'est sûr, c'est une luxation de la mâchoire.
Et c'est quelque chose de courant?
Et, non, mais en fait ce qui était marrant, c'est que tout le monde nous disait, on n'a jamais vu ça, mais ça peut être que ça.
Ok.
Et donc là, ils lui refont la même chose. Son papa est arrivé entre-temps, donc quand il est arrivé, ça a été un vrai soulagement pour moi. Et donc là, ils n'arrêtent pas quoi, d'essayer de lui remettre la mâchoire encore et encore. Et puis, au bout d'un moment, ils disent, bon, bah écoutez, en fait, ils lui remettaient et paf, ça se redéboîtait. Et ça restait bloqué. Donc là, ça commençait à être un peu délicat, puisque du coup, elle ne buvait pas, elle ne pouvait pas manger, la mâchoire était bloquée, donc elle était en hypersalivation. Donc ça commence à être un peu critique. Et donc, pour vous la faire un peu plus rapide, parce que sinon ça va durer hyper longtemps. En gros, ça a duré comme ça. Et ah oui, donc ils l'ont anesthésié, ils l'ont fait une anesthésie générale, ils lui ont carrément fabriqué un harnais de contention pour lui tenir le visage fermé, qui était très douloureux, terriblement barbare, et qui ne servait absolument à rien. Donc on a su après que c'était en plus très dangereux ce qu'ils avaient fait. Et en fait, on est resté comme ça pendant 2-3 semaines avec Necker, et on n'arrêtait pas de leur dire « on veut voir un neuropédiatre ». On veut voir un généticien, on veut voir qui vous voulez, mais on veut plus rester en maxillofacial. C'est évident que le problème de cet enfant n'est pas juste un problème de mâchoire. Écoutez, c'est nous les médecins, nanana. Je dis, mais non, mais s'il vous plaît, machin. Bah ok, on va écrire une lettre au service. Je dis, mais écrire une lettre au service, vous avez juste à aller là-bas et leur demander de la foi. Donc finalement, à force de s'énerver, ils nous ont fait voir le service ORL, ils lui ont rentré des tuyaux dans le nez, dans la gorge, partout, tout va bien, il n'y a rien d'anormal. Donc du coup on insistait de plus en plus pour voir une neuropédiatre. Impossible, il voulait pas. Enfin, du moins il nous disait, on écrit une lettre et puis quand elle nous fera un retour on vous préviendra. Et donc nous on leur disait, mais là on a une enfant qui maigrit à vue d'œil, qui peut plus boire, qui peut plus manger, qui souffre et qui a la bouche ouverte.
Elle avait quel âge, Panthéa?
Elle avait 1 an et demi.
Ouais.
Et au bout d'un moment on s'est dit que bah ils se foutaient un peu de nous. Donc on a commencé à contacter d'autres hôpitaux. Donc on a été à Robert Debré. Ils nous ont accueillis en urgence. Donc, quand on est arrivé, ils nous ont dit, bah non, c'est pas une luxation de la mâchoire. Tout simplement parce qu'à cet âge-là, les enfants, ils n'ont pas l'angle de la, ils n'ont pas l'os de la mâchoire à 90 degrés. Donc, il ne peut même pas y avoir, scientifiquement parlant, de luxation.
Oui.
Donc, en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est que si, en plus, votre fille, elle est hyperlaxe, ils sont en train d'aggraver le problème, en fait. Parce que plus ils font, et plus ça va devenir du chewing-gum. Et là, le médecin me sort un truc extraordinaire. De toute façon, dites-vous que l'os, il se fabrique vers 4 ans, donc elle finira bien par fermer la mâchoire. Dans un monde parallèle, c'est la quatrième dimension, c'est pas possible. Mais bon, ils étaient déjà un peu plus à l'écoute, donc ils me disent, bah, écoutez, on va essayer de vous trouver un rendez-vous avec un neuropédiatre, on vous tient au courant, et ils nous renvoient comme ça, quoi. Et nous, on a une gamine qui est devenue maigrissime, qui est blanche, qui mange plus, et donc le seul moment où on pouvait la nourrir, c'est quand elle s'endormait, la mâchoire se fermait, donc c'était un miracle. Et dès qu'elle se réveillait, la première impulsion de bouche qui lui ouvrait la bouche, on avait ce moment-là pour entrer un biberon. Si on ratait le coche, elle ne se nourrissait plus pendant au moins 12-13 heures.
Ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé tous les deux.
Tous les deux. En fait, on s'est rendu compte de ça. Et donc, Necker, très gentiment, nous ont dit, bah, écoutez, faites des tours en voiture, mettez de la musique, gardez-la dans le noir, comme ça, elle dormira au max. Et, d'accord, mais quelle est la finalité de votre solution? Parce qu'il y a un moment, il faut faire quelque chose, il faut trouver pourquoi elle a ça. On va pas, donc, dans ce cas-là, on lui donne des somnifères, elle dort toute la journée, et puis on se dit qu'on a résolu le problème. Et finalement, bah, c'était très dur. Hein. C'était vraiment la pire expérience de ma vie. Et on était tellement désespérés, on disait mais personne nous écoute, personne veut comprendre que cet enfant, il y a un truc beaucoup plus grave. Et finalement, j'ai une amie qui a passé je sais pas combien d'heures sur Doctolib et qui nous a trouvé un numéro, un rendez-vous d'urgence avec une neuropédiatre dans le 94. Et elle m'a dit écoute, je t'ai trouvé ce rendez-vous, allez-y avec Panthéa. En fait, on est arrivé et là, pour la première fois, on avait quelqu'un qui nous écoutait. C'est-à-dire quand je disais elle fait ça, qui est pas comme les autres, elle fait ça, elle m'a pas balayé le truc en me disant madame, c'est pas le problème du jour. Elle a dit, effectivement, peut-être que tout est lié. Et surtout, du coup, elle a pesé Panthéa. Elle a dit, elle a perdu plus de 20% de son poids. À partir de 10-15%, on estime déjà qu'un enfant, il est en danger. Là, on a 20%. Je ne comprends pas comment personne ne l'a fait hospitaliser jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on lui raconte un peu tout. Elle me dit, écoutez, moi, je vais appeler l'hôpital Trousseau. Alors, on est reparti. Et j'ai dit à Cadio, eh ben voilà, on nous tient encore au courant. Bon, bah, c'est super, on reste encore avec notre enfant dans cet état. Et le lendemain, Trousseau nous a appelés, ils nous ont dit de préparer les valises. Lundi, première heure, vous venez à l'hôpital, on l'hospitalise. Et en fait, bizarrement, j'étais hyper soulagée. Alors, je ne devrais pas, parce que mon enfant va rentrer à l'hôpital, mais je me disais, enfin, on va essayer de chercher ce qu'elle a. Et là, ils ont été super. Ça veut dire, ils ont fait des radios, des scanners, des prises de sang, IRM. Enfin, même l'IRM, on avait été obligés, nous, par un ami de ma mère, d'avoir une ordonnance pour faire un IRM, de trouver un endroit privé, de payer pour avoir un IRM pour notre gamine. Ça veut dire que même ça, Necker voulait pas le faire. Mais on avait l'impression de parler à des murs, en fait. Donc l'IRM n'a rien montré, donc ça a quand même été un soulagement, parce qu'à un moment, on se disait, mais ça se trouve, on est passé à côté d'un AVC, ou... Enfin, je sais pas, on se dit plein de trucs, peut-être qu'il y a des lésions cérébrales, c'est pas possible qu'une mâchoire se bloque sur le côté comme ça, ouverte, sans raison. Et donc, à Trousseau, c'était un peu... les médecins défilaient, et tout le monde... J'ai jamais vu ça. Et tout le monde nous disait ça, et nous, on dit, mais c'est pas possible, comment personne n'a jamais vu un enfant, voilà. Et à l'époque, sur Instagram, on m'avait dit, figurez-vous qu'il y a une autre maman dont l'enfant a le même problème, et donc elle a été suivie à Necker, il lui avait mis le même harnais de contention. Après, j'ai perdu contact avec elle, donc je sais pas si son enfant va mieux aujourd'hui, etc. Et finalement, donc à Trousseau, il y en a un qui disait, elle est hyperlaxe, elle est hyperlaxée, donc du coup, la mâchoire, c'est du chewing-gum, machin. Un autre qui disait, mais non, mais ça peut pas être ça, parce que quoi qu'il arrive, on pourrait la fermer, donc là, le fait qu'on puisse pas la fermer, c'est qu'il y a quelque chose. Ils ont essayé de lui donner du Valium. Et ça a été l'hécatombe. Elle a commencé à hurler. Elle avait, comme si elle avait, en fait, des hallucinations, hyper stressée, l'angoisse. Donc, du coup, derrière, ils ont dû la shooter avec un autre médicament pour enlever l'effet du Valium. Finalement, derrière, ils ont dit, on va commencer un nouveau traitement, on va tenter ça. On est obligé de tester ce qu'on a sous la main pour voir ce qui fera effet. Et quelques jours après, la mâchoire s'est refermée. Elle a pu reprendre un premier biberon éveillé. Donc, ça a été le moment, je crois, de joie le plus extrême qu'on ait eu, quoi. La première fois où elle a pu se renourrir normalement avec un biberon.
C'était combien de temps après
C'était depuis le début du premier jour où sa mâchoire s'est bloquée, ça faisait déjà un mois et demi qu'elle ne pouvait pas se nourrir et qu'elle souffrait. En fait, elle souffrait du matin au soir de cette mâchoire. Et souvent, je dis aux gens, si tu veux te rendre compte, parce que souvent, quand on dit elle a la mâchoire ouverte, on dit oui, elle a la mâchoire ouverte. Et je leur dis ouvre la bouche et reste comme ça. Et dis-moi au bout de combien de temps t'as mal. Et généralement, ça manque pas qu'au bout de 30 secondes, on me dit c'est insupportable. Alors, je suis sûre que là, tout le monde est en train d'ouvrir la bouche pour voir ce que ça fait. Mais c'est la douleur devient insupportable. Et je me dis, elle a vécu ça pendant un mois et demi, sans compter le harnais qu'on lui avait mis. Enfin, le harnais, même aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde les photos, je dis, mais en fait, c'est de la torture. Et même à Trousseau, Non, c'était à Debré, ils nous ont dit, mais ils sont fous, Anneker, elle est en pleine croissance. Le fait de lui bloquer le visage comme ça pendant un mois, ça aurait pu avoir d'autres conséquences très graves aussi, quoi. Donc, voilà. Et donc, la neuropédiatre nous a dit, bah écoutez, ce qui est quand même très bizarre, c'est que les doses que je lui ai données de médicaments, normalement, c'est limite un placebo, mais c'était juste pour être sûr que son corps réagisse bien. Parce que vu qu'elle avait très mal réagi au Valium, on voulait être sûr de ne pas lui redonner quelque chose, donc normalement, c'est pas censé faire effet. Donc tant mieux si ça fait effet, mais pour moi, il est peu probable que ce soit lié à ça. Et en fait, c'est là où du coup, j'ai commencé à tout dire. Genre, mais vous savez, elle se retourne pas comme les autres, et puis elle fait ce geste-là, et puis elle fait ça. Et là, tout le monde a... Je sentais que ça y est, les gens sont réceptifs en face de moi, merci la mâchoire. Et là, on m'a dit, OK, donc on va vous donner une ordonnance, vous allez aller voir un kiné, vous allez aller voir ça, vous allez essayer de trouver un CAMS, on va vous faire une lettre pour aller dans un CAMS.
C'est quoi un CAMS?
En fait, c'est des centres pour les enfants en situation de handicap où en fait, tout est dedans. Donc, il y a une orthophoniste, il y a un médecin, il peut y avoir un neuropédiatre. Et donc, les enfants sont pris en charge dans une structure où en fait, ils peuvent voir du coup tous les spécialistes. Okay. Et elle m'a prévenue, elle m'avait dit par contre 6 mois d'attente pour pouvoir avoir un premier rendez-vous. Mais j'étais soulagée parce que je me disais enfin les gens nous écoutent et on n'arrête plus de me dire t'es complètement folle. Et donc j'ai appelé le CAMS, elle m'a dit bon bah 3-4 mois d'attente pour un premier rendez-vous. Je lui dis bah moi je veux plus perdre de temps parce qu'on en a assez perdu. Moi ça fait ma fille maintenant elle a 18 mois, depuis qu'elle a 8 mois j'arrête pas de dire qu'il y a un truc. Donc qu'est-ce que je peux faire en attendant d'être prise en charge? Elle m'a dit bah libéral. Je lui dis OK bah donnez-moi le nom de la meilleure psychomotricienne, donnez-moi le nom du meilleur kiné, donnez-moi le nom de tous les spécialistes que je peux aller voir et on commence. Donc on a commencé nous la prise en charge en amont, en attendant d'aller au CAMS. Et finalement ils l'ont vu plusieurs mois après et premier diagnostic qui est posé. Alors là, l'hécatombe pour nous, on se dit merde, on avait pensé à ça, tout sauf à ça. On me dit mais non, mais en fait votre fille, elle est autiste, c'est le trouble du spectre autistique, c'est ça. Alors nous on est un peu sceptiques au début, on se dit franchement on avait pensé à tout sauf à ça. Enfin, ouais effectivement elle a des stéréotypies, elle peut. C'est-à-dire le flapping, c'est le fait de faire des gestes avec les mains. Parfois, elle est un peu dans son monde. C'est vrai qu'elle répond pas forcément à chaque fois qu'on l'appelle. Elle pointe pas du doigt. Donc, petit à petit, on commence à dire oui, c'est vrai qu'elle fait pas ça, pas ça. Mais en même temps, on n'arrête pas de se dire mais non, mais elle est là, quoi. Elle nous sourit toute la journée. Elle me regarde dans les yeux. Et même si elle parle pas, elle communique. En fait, elle est tout le temps dans le regard, dans les rires, dans la manière d'être avec nous. Et puis, du coup, on commence à nous dire, vous savez, le diagnostic, il est difficile à accepter au début, mais plus vous l'accepterez rapidement, et mieux ce sera pour elle et pour vous. Et moi, je suis réfractaire à rien. Donc, je pars du principe que, OK, donc j'ai quand même des spécialistes qui sont en train de me dire que potentiellement ma fille est autiste, qu'il n'existe pas une forme d'autisme, mais plusieurs. Donc, j'achète tous les bouquins qu'on me conseille, je commence à tout lire, machin. Je trouve une éducatrice spécialisée qui a suivi toutes les méthodes possibles et inimaginables, donc tout ce qui est ABA, Denver, etc., enfin, toutes les méthodes... utiliser, donc voilà, on la trouve, ce qui n'a pas été très facile, c'est un vrai parcours du combattant en fait, c'est là où on se rend compte qu'on rentre complètement dans un autre monde c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et donc elle commence à venir voir Panthéa et on lui explique donc tout le parcours et elle est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a été, aujourd'hui matin elle est en congé mat, mais elle a été vraiment d'une aide incroyable parce que Panthéa faisait des progrès hyper rapidement avec elle. Et ma mère me disait tout le temps, ma petite fille, elle est pas autiste, il se gourre encore, je le vois bien, elle est pas autiste, machin. Je lui disais, écoute, maman, on n'arrête pas de nous le dire, il y a un moment, il faut qu'on accepte les choses. Moi aussi, je trouve qu'elle a rien à voir, mais écoute, si on nous le dit, machin. Et donc, cette éducatrice, qui s'appelle Emmanuelle, me dit au bout d'un mois avec Panthéa, je suis désolée de vous dire, mais votre enfant, elle est pas autiste, quoi. Moi, je le vois, je travaille avec des enfants autistes toute la journée, elle n'est pas autiste. À mon avis, il y a un truc neurologique, il y a autre chose, c'est pas de l'autisme. Déjà, ce que je mets 6 mois à leur apprendre, elle apprend en 2 jours. Il y a d'autres trucs que je leur apprends à eux facilement, mais que elle, voilà, et elle a surtout des problèmes moteurs. Panthéa, elle a marché à plus de 2 ans, je sais plus de 2 ans et 3 mois, 2 ans et 4 mois. Elle s'est retournée hyper tard, encore aujourd'hui, elle commence à peine à réussir à descendre des escaliers toute seule à presque 4 ans. Donc elle me dit, les enfants autistes, ils peuvent avoir une manière de marcher bizarre, ils peuvent avoir tout ça, mais elle a un problème moteur. C'est évident que les gestes, son cerveau n'arrive pas à lui faire faire ce qu'elle doit faire. Mmh. Elle tremblait beaucoup petite. Elle avait, moi j'appelais Sarkozy quand elle était petite parce que, elle faisait tout le temps des mouvements avec la tête comme ça. Et je me disais, c'est marrant, on dirait Sarko. Et donc, c'était devenu une blague entre nous, quand on arrivait à en rire, mais voilà. Et elle tremblait, quoi. Elle avait des petits tremblements dans le corps. Et donc, elle me dit, non, mais il faut aller chercher autre chose. C'est génétique, c'est sûr, c'est génétique. Et donc, on a commencé à dire au CAPS, écoutez, nous, on pense aussi vraiment que pas autiste, quoi. C'est autre chose, il faut continuer à chercher. Et donc, quand on a vu la neuropédie... Alors, au CAMS, ils étaient un peu sceptiques au début, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on ne veut pas dire accepter. Que notre enfant est autiste, alors que je vois pas ce qui change, quoi. Enfin, quel que soit ce qu'a l'enfant, on est content de pouvoir poser un diagnostic dessus. Mais là, du coup, on n'arrête pas de se dire, mais c'est encore pas le bon diagnostic, on n'est pas bon là. Et donc, quand on a vu la neuropédiatre, on lui a dit, écoutez, au calme, ils nous ont dit qu'elle était autiste, mais non, elle n'est pas autiste, votre fille. La neuropédiatre nous le dit tout de suite, elle dit, non, c'est pas ça, mais par contre, le problème, c'est que ses symptômes, ils ressemblent à rien. Moi, j'ai jamais vu une enfant qui a ces symptômes-là, donc je ne peux pas vous dire, moi, ça me rappelle telle chose ou telle chose, parce que pour moi, c'est, je sais pas, jamais vu. Et donc, elle me dit, bah, vous allez voir une généticienne, vous allez voir la généticienne, et puis peut-être qu'elle pourra vous aider. Donc, on a été voir la généticienne, et elle me dit, bah, franchement, jamais vu non plus. Donc, bah, on va faire un premier test génétique. Mon premier test génétique, on trouve rien. Et du coup, on lui dit, il faut chercher encore, il faut trouver ce qu'elle a. Donc, premier test génétique, ça donne rien. Et donc, en poussant plus, donc là, ils nous font, alors j'ai oublié le nom de ce test, je sais plus comment ils l'appellent, mais en gros, c'est un test génétique qui brasse un nombre impressionnant de gènes, et la seule chose, c'est qu'il faut attendre 8 mois pour avoir les résultats. Et on s'est dit, bah allons-y, de toute façon, c'est pas possible qu'on continue à vivre sans avoir de diagnostic. Mmh. Donc, ils nous ont pris, et à son papa et à moi, du sang, et à elle. Et du coup, bah là, on est rentré dans une longue attente, puisque, voilà. Mais on a continué en fait la prise en charge avec tous les spécialistes en disant bon bah de toute façon ça l'a fait progresser donc quel que soit ce qu'elle a au moins elle progresse. Mais c'est vrai que c'était difficile puisqu'elle ne marchait pas, elle dit pas un mot et encore aujourd'hui il y a quelques mots qui sortent de temps en temps mais c'est très rare. Elle jetait beaucoup tous les objets tout le temps sans s'en rendre compte. Mais à côté de ça voilà c'est une petite fille qui est pleine de vie, elle rigole tout le temps, elle est tout le temps de bonne humeur. Donc finalement, ça nous aide aussi à accepter les choses parce que c'est vrai que pour l'avoir vue en souffrance physique et hospitalisée, c'est là où je me dis en fait vraiment tout ce qui compte, c'est la santé, quoi. Donc même si elle n'est pas comme les autres et qu'elle sera jamais comme les autres, au moins elle va bien dans son monde à elle, mais elle va bien. Et en fait, donc 10 mois après, on a eu rendez-vous avec la généticienne et elle nous a dit bah on a trouvé ce qu'elle avait. Là, le soulagement. Et elle nous dit, bon, bah, en fait, la maladie, elle est tellement rare, il y a 250 cas dans le monde, donc elle n'a pas de nom. Elle porte juste le nom du gène, puisqu'il n'y a pas assez de cas pour qu'on l'appelle syndrome de quelque chose. Mm-hmm. Donc voilà, elle s'appelle STXBP1. Donc là, je me dis, oh, c'est quoi ce nom barbare et tout. Et c'est ça. Et c'est, mince, comment ils appellent ce terme dénoto, un truc comme ça. Et donc, moi, je comprends absolument rien de ce qu'elle me dit. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, bah, en gros, vous n'êtes pas porteur, ni vous, ni son papa. C'est un gène qui vrille dans l'utérus, et normalement, l'utérus de la maman. La nature est bien faite puisqu'elle est censée normalement quand il y a une petite anomalie qui se crée remettre les choses correctement. Bah vous, il y a eu une chance sur 50 millions, c'est tombé sur vous, voilà. Mais c'est la faute à pas de chance, vous êtes pas porteur.
Comment tu te sens toi quand on te dit ça ?
Eh ben, je pensais que ça m'enlèverait la culpabilité parce que j'arrêtais pas de me dire j'ai fait un truc qui a provoqué ça. Si on trouve pas, c'est que c'est en moi, c'est que machin. Mais bizarrement, à ce moment-là, je me sens pas mieux. Et je pense pas encore à me dire bon bah on n'est pas porteur, c'est quand même bon signe. J'entends juste le STXBP1 et je me dis c'est barbare, ça sent mauvais quoi. Et elle me dit par contre, alors elle nous dit que ça, donc elle nous donne le nom de la maladie. Elle me dit qu'on n'est pas porteur et puis elle dit vous verrez la généticienne parce que c'est pas mon domaine, donc c'est elle qui vous expliquera ce qu'a votre fille. À l'époque, donc moi j'avais pas encore mes appareils auditifs, donc je n'entends pas cette phrase très importante qu'elle dit et surtout n'allez pas sur internet taper le nom de la maladie. Bien que même si j'avais entendu, je serais quand même allée sur internet puisque déjà on reçoit les résultats d'une prise de sang, on va sur internet. Mmh. Donc quand on vous annonce le diagnostic de votre fille sans vous expliquer ce que c'est, la seule chose qu'elle nous dit c'est dites-vous qu'on n'aurait jamais pu penser à cette maladie-là parce que elle ne présente pas les mêmes symptômes que les autres. Et donc bien évidemment je sors de là, je tape le truc, le nom, et là douche froide quoi. Je me rends compte que la maladie en fait elle est hyper grave, que tous les enfants qui sont porteurs de cette anomalie génétique la plupart, ils sont en fauteuil, ils ne mangent pas tout seuls, ils ont des sondes pour être nourris, ils ont un retard mental profond, voire très 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 profond. Ils sont en souffrance physique et surtout, ils font énormément d'épilepsie. Ça veut dire que la première raison pour laquelle on pense à ce gène-là, c'est en raison de cette épilepsie qui en plus est résistante aux médicaments dans la plupart des cas. Je ne reconnais pas ma fille, mais en fait, j'explose en pleurs dans la voiture. Et je deviens inconsolable, c'est-à-dire qu'on devait aller déjeuner et j'arrêtais pas de dire à Cagnon, je suis désolée, je sais même pas pourquoi je pleure, parce que ça fait un an et demi que j'attends un diagnostic, et là on me le donne, et en fait ça va encore moins bien. Alors je devrais être soulagée, et en plus me dire, j'ai de la chance parce qu'elle est quand même modérément touchée par rapport aux autres enfants porteurs, mais en fait, je sais pas, c'est genre la fin de ma vie. Et j'ai mis peut-être 2-3 semaines à m'en remettre, ça veut dire que j'étais déprimée, ce qui ne m'arrive jamais. C'est-à-dire que Normalement, j'ai toujours ce truc de me dire, c'est pas grave, la vie est belle, vas-y, continue. Et là, j'étais complètement anéantie. Je voulais plus travailler. D'ailleurs, je pense que j'ai arrêté de travailler pendant 3 jours. Ça peut pas être long de dire que 3 jours, mais ça nous arrive jamais. C'est-à-dire que même quand notre fille était hospitalisée, on se relayait, mais on bossait, quoi. On n'avait pas le choix. Et là, en fait, je pleurais tout le temps. Je disais à Cadio, je suis désolée, j'ai pas la force, en fait, je peux pas travailler. Là, je m'imagine pas, excuse-moi, choisir la déco du salon d'un gars, alors qu'on vient de m'annoncer que ma fille a une maladie, en fait, super grave. Et le seul truc qu'elle nous disait, c'est ne vous inquiétez pas, c'est pas évolutif, c'est pas dégénératif, donc ce qui est là, c'est là. Donc on est un peu rassurés, mais voilà. Et les semaines passent, donc finalement, on voit la généticienne qui commence à nous expliquer un peu plus que ça, et elle nous dit écoutez-moi, soyez rassurés quand même, parce que moi, perso, j'aurais pas misé un copec sur ça, parce que votre fille, elle est vraiment modérément touchée, donc ça va aller, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc on est rassurés, il nous dit juste si suivi tous les 6 mois, donc tous les 6 mois, on voit la neuropédiatre, tous les 6 mois, on voit la généticienne. Et il nous demande quand même si on peut en faire un cas d'étude. Parce que la maladie, et c'est ça en fait qui a été le plus dur, c'est qu'on n'arrête pas à dire, mais comment ça se finit? Donc est-ce que les enfants... Alors, vous avez dit, c'est pas une maladie mortelle. Mais du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'elle va parler un jour? Est-ce qu'un jour, je vais entendre ma fille dire maman? Est-ce qu'un jour, je vais l'entendre parler? Parce que ça, c'était vraiment un des trucs qui est les plus pesants au quotidien. Et encore aujourd'hui, même si j'arrive de manière générale à être très heureuse, bah, des fois, il suffit qu'il y ait un enfant de l'âge de Panthéa qui parle et je me mets à éclater en pleurs. Enfin, c'est complètement... Je sais que c'est irrationnel, mais voilà. C'est. Et en fait, j'arrête pas de dire, mais est-ce qu'elle va parler un jour? Est-ce qu'elle va sauter un jour? Est-ce que elle pourra aller à l'école un jour? Est-ce que vous pouvez me dire au moins comment ça va évoluer? Et elle me dit, on n'a aucun recul, donc je peux même pas vous dire ce qu'elle sera capable de faire ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la prise en charge qu'elle a aujourd'hui, c'est la meilleure qui puisse être. Vous pouvez pas faire plus pour votre fille. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez qu'elle a progressé. Continuer, voilà. Je peux pas. Il y a pas de limite. En gros, elle me disait la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas de limite. Je pensais pas à quoi elle est limitée pour le moment. Continuer à fond et peut-être qu'on aura de belles surprises. Sauf que angoissée de la vie que je suis, je me suis dit bah non, je vais pas m'arrêter là. Et moi, je peux pas accepter le fait qu'on me dise qu'elle va devenir un cas d'étude et qu'on va pas me dire comment elle va. Donc j'ai commencé à chercher des groupes dans le monde d'enfants porteurs de la même maladie. Et j'ai trouvé donc 2 groupes, dont un où les gens sont très actifs.
En France ou
Non, aux États-Unis. Et du coup, j'ai commencé à échanger avec eux. Et en fait, plus je regardais les vidéos que les parents postaient, les photos, et je me disais, mais mon Dieu, merci la vie quand même, parce que ça aurait pu être tellement pire. Ma fille fait pas d'épilepsie. Maintenant, il y a une suspicion, parce que c'est pareil, j'arrête pas de leur dire, elle a des moments d'absence parfois. Elle a dit, oui, mais c'est rien, oui, mais c'est rien, oui, mais c'est rien. Finalement, on a fait un électroencéphalogramme, et effectivement, il y a une activité qui est un peu anormale dessus, mais pour le moment, on n'est pas encore OK avec les médecins, donc voilà, c'est en cours de diagnostic. Et en fait, plus je communiquais avec eux, et plus je me disais, mais non, en fait, on nous dit n'importe quoi quand on me dit que la maladie n'est pas évolutive. C'est pas vrai, puisque je vois des enfants qui ont commencé l'épilepsie à 4 ans, ou à 10 ans, ou à. Voilà, et d'autres qui régressent d'un coup. Donc finalement, les médecins, effectivement, ils n'ont pas de recul, mais. Donc ça a commencé à un peu plus m'inquiéter. Et puis sur les 4 derniers mois, il y en a 3 qui sont décédés. Donc là. Bah, à chaque fois qu'on assiste, enfin, même si je sais qu'elle est pas à ce stade, même si je sais que, on dit quand même, ce gène est, enfin, voilà, cette anomalie, elle est dans le corps de mon enfant, et objectivement, les médecins n'en savent rien, donc voilà, on vit toujours avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Heureusement, il y a Cadio toujours pour relativiser les choses et me calmer, parce que si c'était moi, mais oui, c'est vrai que, qu'on se rend compte que la maladie est peut-être un peu plus grave que.
Et du coup, tu en parles, Cadio et toi, enfin ton chéri et toi, du coup, comment vous traversez toutes ces épreuves tous les deux? Vous avez une recette pour vous équilibrer face à...
Je pense que bah, déjà, c'est l'amour qu'on a pour Panthéa. Tous les parents aiment leurs enfants, hein, de toute façon, ça... mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, alors peut-être, non, mais c'est, non, qu'est-ce que j'en sais de ce que vivent les gens, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a un amour qui est complètement irrationnel pour cet enfant. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que, à aucun moment, tout ça n'a fragilisé notre couple. Et parce que de toute façon, je pense que ce soit l'un ou l'autre, on se voyait pas vivre les choses avec quelqu'un d'autre que avec. Et puis il y avait la balance, quoi. Donc moi j'étais l'inquiète, mais mon inquiétude fait que parfois ça nous permet de découvrir des choses, parce que je m'arrête jamais à ce qu'on me dit et voilà. Et lui c'est la force tranquille, quoi. Je me rappelle d'un moment où on était dans la voiture et pour la 1000e fois on allait à Necker pour qu'il lui remette la mâchoire en place. Et quand elle souffrait beaucoup, on chantait. Et en fait j'étais dans la voiture. Et, alors, je vais essayer de pas pleurer parce qu'à chaque fois que je raconte ça je pleure. Non mais c'est terrible. Et en fait, j'ai voulu chanter. Ben voilà, c'est parti. Et j'ai voulu chanter. Et la boule dans ma gorge était tellement forte que je pouvais même plus chanter. Et en fait, mes larmes coulaient. Et il m'a juste attrapé la main. Et il s'est mis à chanter à ma place. C'était... Ouais, c'était vraiment... Et en fait, je le regardais chanter hyper ému. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Moi, je pleure, et lui, là, il est hyper fort, donc il tient le coup, quoi. Et c'est ce qui me permet aussi de relativiser, parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui arrive aussi positif et se dire que la vie est belle et qu'elle y arrivera, bah, c'est que je peux y croire aussi, quoi.
Et d'ailleurs, ton chéri et toi, vous bossez ensemble, vous vivez tout ensemble assez intensément. Vous avez un rythme hyper soutenu de travail. Est-ce que c'était comme ça avant que tu sois maman ou non. Ça a tout déclenché
Tout est arrivé en même temps. L'activité professionnelle a décollé en même temps que la maternité, en fait. Donc du coup, c'est vrai que... Alors après, je me suis accordée vraiment... je ne sais plus combien de mois exactement, mais je crois qu'au moins jusqu'aux 10 mois de Panthéa, je suis restée avec elle. Et après, l'activité, elle était très, très intense. Donc on a vraiment énormément... travailler et en même temps il fallait gérer Panthéa, mais j'ai ma maman et je pense que si elle n'était pas là, j'aurais certainement arrêté de travailler, j'aurais renoncé à tout parce que j'aurais jamais pu la laisser avec une nounou. J'ai pas de problème spécialement avec les nounous, hein, mais moi j'aurais pas pu, en tout cas j'aurais pas pu la laisser en crèche non plus petite. Donc du coup c'était pour moi c'était inenvisageable. C'était soit elle reste avec ma maman, soit en plus, on a mis pas mal de temps avant qu'elle aille en crèche. On avait essayé pendant un moment de la mettre dans une espèce de garderie, un petit peu. Et puis, au début, ça se passait bien. Puis après, ça, j'ai vu qu'elle était pas bien, que c'était quelque chose qui l'angoissait. Donc, on a arrêté. Et on a essayé la crèche quelques temps après. Donc, c'est pareil, ça a été une vraie mission de pouvoir trouver une crèche, puisque le jour où on a été à la mairie pour leur dire bah, on aimerait inscrire notre fille en crèche, comme elle avait été déjà dans la garderie de la ville, eh ben, ils nous ont gentiment fait comprendre qu'en gros, il n'y avait pas de place pour elle en crèche. Avec une excuse bidon de « on n'a pas de médecin de garde » ou je sais pas quoi. Et du coup, j'avais envie de retourner la table, de tout leur balancer dessus. Et en fait, je me dis « mais c'est de quoi vous parlez, quoi ? » En train de parler d'une enfant qui n'a même pas 3 ans et vous êtes déjà en train de l'exclure. Alors que, sans raison en fait, parce que moi je pars du principe que dans une crèche, il y a des bébés de 6 mois. Donc un bébé de 6 mois, ça ne mange pas tout seul. Ça porte des couches, il faut tout le temps le porter. Moi, ma fille, ok, elle n'est pas autonome, ok, il faut lui donner à manger, mais moi, je dis souvent, elle a un handicap invisible, c'est-à-dire que les gens, quand ils la voient, ils ne peuvent pas imaginer une seule seconde qu'elle est porteuse d'une anomalie génétique, ça ne se voit pas sur son physique, ça ne se voit pas au premier abord sur son attitude, et généralement, ce qui fait tilter les gens, c'est que, bah, oh, bah dis donc, elle est un peu grande, elle ne parle pas, elle commence à peine à pouvoir manger toute seule, mais sinon, ça ne se voit pas. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle vienne? En fait, c'était vraiment l'injustice, ça m'était vraiment en colère de me dire « mais qui vous êtes pour vous permettre d'exclure ma fille comme ça ?» Et en fait, sur le coup, je suis partie, j'étais un peu énervée, puis je suis rentrée à la maison, j'ai éclaté en pleurs, mais des pleurs de colère, et je me suis dit « mais c'est injuste, tu te rends compte, on n'arrive même pas à ne pas la faire exclure alors qu'elle a 3 ans, mais qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et du coup, bah, on a renoncé, on a dit « bon, bah tant pis, hein, si on peut pas, on peut pas. » Et j'ai reçu un coup de fil un mois après. Bonjour, c'est Karine, directrice de la crèche. Il y a une place pour Panthéa, est-ce que vous voulez la place? Et du coup, j'ai dit oui, bah, évidemment qu'on veut la place. Elle dit, bah, écoutez, vous venez, on fait un premier entretien avec vous, après avec Panthéa, et ensuite elle aura une semaine d'adaptation. J'ai dit ok. Et en fait, c'est comme ça que Panthéa est rentrée à la crèche. Et cette directrice de crèche, elle est extraordinaire. Elle travaillait en IME avant, qui sont des structures pour les enfants handicapés. Et elle m'a dit, il n'y a aucun problème. Elle m'a dit, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai dit que je voulais la prendre, ils ont tous levé les yeux au ciel à la mairie en mode ça ne va pas, t'es complètement folle, qu'est-ce que tu veux faire avec un enfant handicapé dans ta structure? Et là, du coup, je plaignais encore plus les mamans dont les enfants ont des handicaps visibles ou des handicaps plus importants, parce que je me dis, les gens qui sont censés être bienveillants de la petite enfance, qui sont censés aimer les enfants, ils sont déjà. Tellement dans le jugement et dans l'exclusion, donc j'imagine même pas le reste de la société. Et donc, il s'avère qu'elle a adoré la crèche, qu'elle s'y sentait hyper bien, qu'elle était hyper bien intégrée, qu'elle s'éclatait tous les jours là-bas. Et d'ailleurs, la directrice de la crèche m'a dit plusieurs mois après, on a eu une réunion à la mairie, donc ils m'ont demandé comment ça se passait, et je leur ai dit, écoutez, tout simplement, tous les jours, moi j'ai plein d'enfants ordinaires, et j'arrête pas de me battre pour essayer de les rendre un peu extraordinaires, elle est déjà extraordinaire. Donc vous savez pas à côté de quoi vous êtes passé. Et en fait, ça m'avait beaucoup touchée. Et donc, elle est restée comme ça en crèche pendant quelques temps. Mais nous, on se battait aussi à côté parce qu'il fallait qu'on sache qu'est-ce qu'elle ferait après. Parce que la crèche, c'est sympa. Mais elle mettait déjà une tête à tout le monde parce qu'elle était plus âgée. Alors la directrice m'a dit, mais moi, s'il faut que je la garde jusqu'à ses 6 ans, je la garde jusqu'à ses 6 ans, mais je la laisse pas comme ça. Et on avait fait une demande à la MDPH. Donc voilà, il faut faire une demande MDPH pour que votre enfant soit reconnu handicapé. Et à partir du moment où il est reconnu handicapé, on a le droit à des aides. Mais surtout, on a le droit soit à une AVS, donc une dame qui accompagnerait notre enfant à l'école, donc en maternelle, soit à une entrée dans un IME, donc des structures spécialisées pour des enfants différents. Et en fait, on a attendu plus d'un an la réponse de la MDPH. Donc déjà, on a dû avancer sans aucune aide. Donc tout ce qu'on faisait en libéral, bah, on le finançait nous. Et en plus de ça, bah, on n'avait aucune perspective de, bah, d'avenir, puisqu'on ne savait pas ce qu'on allait faire. On disait, mais tant qu'elle n'est pas reconnue handicapée, on ne peut rien faire. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est le CAMS qui nous a aidés, parce que l'assistante sociale du CAMS s'est dit, bon, écoutez, ça suffit, ça fait plus d'un an que vous attendez, donc maintenant, moi, je prends les choses en main et je vais leur mettre la pression. Et dans le même temps, elle nous dit, bah, y a une place qui s'est libérée dans un IME. Il faut savoir qu'un IME, c'est 2 à 3 ans d'attente pour les parents. Oui. Donc, tant qu'on n'a pas déjà la notification, on ne peut même pas se mettre sur liste d'attente. Donc, nous, on disait, mais en gros, elle aura peut-être 7 ou 8 ans quand elle pourra rentrer dans... Et là, bah, bien évidemment, c'est le choix de tout parent. C'est-à-dire, est-ce que je la mets dans une structure avec des enfants dits normaux et une AVS, ou est-ce que je la mets dans une école spécialisée Et bien évidemment, tout le monde, mais je le vois même sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à nous dire mais pourquoi Panthéa, elle est un peu différente, mais elle est tellement joyeuse, elle est tellement chère, pourquoi vous la mettez pas avec des enfants normaux? Pourquoi faire ça? Pourquoi... Voilà. Et déjà, c'est pas top parce que ça rajoute une culpabilité aux parents. Et puis surtout, bah souvent, l'entourage ou même sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à oublier qu'ils connaissent pas notre enfant comme nous, on la connaît. Mmh. Ils ont pas vécu le parcours comme nous, on l'a vécu. Et qu'ils ne sont pas entourés des spécialistes dont nous, on est entourés et qui connaissent Panthéa très, très bien, qui l'aiment vraiment profondément et qui veulent le meilleur pour elle. Donc, c'est vraiment là où sa psychomotricienne, tout le monde nous a dit, écoutez, un IME génial, c'est celui-là. Donc, soit elle va dans celui-là, soit pas d'IME. Et pile dans cet IME-là, il y a une place qui se libère. Et la psychomotricienne, travaillant là-bas, me dit, écoutez, moi, je vais quand même donner le nom de Panthéa. Potentiellement, j'ai même pas encore la notification MDPH. Elle me dit, on la tente, c'est tellement une chance pour vous qu'on la tente. Et l'IME dit « Ok pour nous, mais il faut quand même qu'elle vienne faire une semaine de test pour être sûre qu'elle corresponde au profil des autres enfants. » Et donc la structure extraordinaire, ils sont 4 dans une classe avec 2 éducateurs, sachant que tous les éducateurs sont soit psychologues, soit psychomotriciennes, soit... Voilà, ça veut dire que quand elle va dans une crèche, bah, une assistante maternelle, elle n'est pas formée pour gérer des stéréotypies, elle n'est pas formée pour... quand Panthéa va faire un geste répétitif qui, en fait, pour elle est apaisant, pour eux, c'est un jeu, mais nous, on sait que bah non, faut pas la laisser faire ça, il faut l'aider à sortir de ça et l'intéresser à autre chose. Enfin, plein de choses comme ça. Et là, en fait, elle se retrouvait, elle pourrait être dans une structure où tout est adapté pour elle. Donc, on était super contents. Et ils nous ont dit, bah écoutez, là, c'est les vacances, donc à la rentrée, vous venez. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a un mois et demi. Vous venez, et puis on fait une semaine de test. Et on a dit, ok, super. Même sans la notification, elle a dit, même sans la notification, on commence et après, on verra avec la MDPH. On a dit, oh, d'accord. Et là, ben, ça a été le premier jour. Et on arrive, super content. Et la porte de l'IME s'ouvre. Et c'était d'une violence, mais d'une violence pour nous. C'était un des moments les plus difficiles, je crois. Parce que, en fait, notre enfant, on l'aime. Et puis, on l'aime comme il est. Et puis, souvent, on a tendance à peut-être pas forcément voir ce que les autres voient. Et puis là, on se retrouvait dans une structure. Déjà, il y avait des adolescents, donc ils sont très, très grands pour certains. Donc, 1m80, 1m70. Forcément, il y a des enfants qui crient. Il y en a d'autres qui ont des gestes, qui peuvent avoir des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, c'était terrible. Je leur ai dit, je m'en veux. J'ai même écrit un article là-dessus parce que je m'en voulais, mais c'était terrible. Mais je me disais, mais en fait, je suis dans un asile. Mais ma fille, elle a rien à voir avec ces gens-là. Et j'avais envie de lui prendre la main, de partir en courant de là et de me dire, mais ça va pas la tête. Mais Panthéa, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ces gens-là? Et en fait, c'était terrible parce que moi, j'étais en train de faire une exclusion vis-à-vis d'autres personnes. Et en fait, ça a été le choc, quoi. Et j'avais une boule dans la gorge, j'avais pas dit, mais ne pleure pas comme ça, vous venez à peine d'arriver, tu vas te mettre à pleurer devant les gens. Et en fait, là, pour la première fois, Panthéa jouait devant nous, et j'ai regardé Cadio, et lui qui est tout le temps le mec le plus positif, le plus calme, le plus. Enfin voilà, et là, pour la première fois, j'ai vu la tristesse et l'angoisse dans son visage. Et ça a été terrible de le voir aussi triste parce qu'il regardait Panthéa, il regardait l'endroit. Et il se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Et c'est dur parce que c'est comme si la vie vous balançait la réalité en pleine face d'un coup en disant, bah, ta fille, elle est pas comme les autres, quoi. Ouvre les yeux, il y a un moment, faut que tu le vois vraiment. Et d'un autre côté, il y avait ce truc de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment en train de mettre ma gamine dans un asile. Alors que, voilà. Et donc, on a fait ce rendez-vous. Donc, j'essayais d'écouter, je me concentrais sur ce que me disait pendant la réunion, donc la directrice, qui était d'ailleurs adorable. Et elle m'expliquait tout ce qui, donc, des cours de pâtisserie, des cours d'autonomie, des cours pour lui apprendre à être propre, à se brosser les dents, à s'habiller toute seule, en même temps, des séances de psychomotricité, des séances avec une institutrice comme les autres enfants auraient eux en maternelle. En gros, c'était le paradis, mais ça a été hyper difficile. Et du coup, on est parti là, maman, comme d'hab, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Cadio, mais c'est terrible, non? Et il me disait, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... Et puis elle est toute petite. Tout le monde est plus grand qu'elle. Alors même si dans sa classe, bon, je crois qu'ils ont 4, 6 et 8 ans, les trois autres qui sont avec elle, quelque chose comme ça. Elle est toute petite à côté des autres, elle est toute innocente. Enfin, je me disais, mais on peut pas la lâcher là, c'est pas possible. Là, elle était dans la crèche, il y avait plein de petits avec elle, ils s'amusaient bien. Et là, elle est dans une structure où ça crie, ça a des comportements pas adaptés. En plus, Panthéa, elle est très forte pour le mimétisme parce qu'elle imite tout ce que fait tout le monde. Et je me dis, mais imagine si... Enfin, ça a été très difficile à accepter. Et en fait, dès qu'elle a commencé la semaine d'essai, bizarrement, on a été hyper apaisés. C'est-à-dire que déjà, on la voyait hyper heureuse d'arriver. Mais la joie de vivre, bon déjà elle est toujours contente, mais alors là c'était hyper contente d'arriver le matin. Je crois que dès le deuxième jour, ils nous ont dit, ils ont commencé à l'initier à la méthode PECS. Donc en gros, c'est une méthode pour permettre aux enfants de communiquer quand ils parlent pas via des images. Et ils m'ont dit, en 15 minutes, elle a compris le principe. Voilà. Donc en fait, on se rendait compte que oui, on parle à des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils lui parlent en langue des signes en même temps qu'ils lui parlent. Donc au bout d'une semaine, elle fait bonjour. Donc on se dit, mais c'est extraordinaire. En fait, oui, c'est... C'est fait pour elle, quoi. Et l'enfant qui vous fait peur parce qu'il arrive et qui vous approche la main sur le visage, vous rendez compte que c'est juste sa manière à lui de vous dire bonjour. Celui qui vient tous les matins avec son micro et qui vous dit bonjour, comment tu t'appelles, bonjour, il le fait, mais c'est sa manière aussi à lui de communiquer. Celui qui crie, il crie, mais il sait pas qu'il crie. En fait, c'est bizarre, mais tout ce qui me faisait peur, d'un coup, je les aimais, ces enfants, alors que je les connais pas du tout. Mais quand j'arrive le matin, je me dis, comme ma fille, elle fait des trucs des fois. Que nous, ça nous fait rire, et j'imagine que quand les gens la voient faire, ils doivent se dire, mais pourquoi elle fait ça, ce enfant? On est tous dans le même bateau, et finalement, ma fille, elle est heureuse d'aller là. Maintenant, ça va beaucoup mieux, ça fait trois semaines, un mois, je sais même pas, qu'elle y va, et elle adore.
Elle a fait des progrès?
Ouais. Elle fait des progrès. Alors après, avec Panthéa, c'est toujours en dents de scie, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre des trucs, les oublier derrière, donc il faut lui réapprendre, enfin voilà. Mais elle fait des progrès. Hier, elle a bu dans une bouteille d'eau. Alors ça peut paraître hyper anodin pour les gens, ils peuvent se dire, d'accord, elle a 4 ans, elle boit dans une bouteille d'eau. Et pour Panthéa, c'est incroyable. Mettre autre chose que son biberon ou la cuillère à laquelle elle était dans sa bouche, c'est... plein de choses comme ça. Au bout de 4 jours, ils m'ont écrit « Elle a mangé son repas toute seule. » On a dit « Mais c'est pas possible, elle a pas jeté l'assiette. Elle a pas... Non, elle a mangé son repas. » Voilà, donc c'est... On se rend compte qu'elle fait des progrès. Et puis surtout, nous, ce qui compte le plus pour nous, c'est qu'elle est bien, quoi. Et tant qu'elle est heureuse, on est heureux aussi.
Et elle pourra... plus tard, peut-être rejoindre une structure.
Si elle peut, ouais. En fait, c'est ce qu'ils nous ont dit au début, parce que moi, après la semaine de test, je leur ai dit la vérité. J'ai dit, je suis désolée, quand je suis arrivée la première fois, ce qui s'est passé dans ma tête est odieux. Je devrais peut-être même pas mettre de mots dessus devant vous, mais je me suis dit, je suis dans un asile, qu'est-ce que je fais là? Mais tous ces gens sont dingues, ma fille, elle a rien à faire là. Et elle m'a dit, mais c'est bien que vous le disiez, parce que nous, on est tellement habitués à être là que finalement, d'avoir le ressenti des parents, c'est bien parce que ça nous rappelle aussi, pour la première fois où vous venez, à quel point il faut vous rassurer aussi sur, sur ce que vous voyez en arrivant. Et ils m'ont dit, maintenant, rien n'est fermé. Si demain, vous voyez qu'elle progresse assez bien et qu'on se rend compte qu'elle peut intégrer un cursus plus normal, on le fera. Mais franchement, on y pense. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont pour l'inclusion à tout prix. Et nous, on n'est pas du tout pour l'inclusion à tout prix. Parce qu'on sait que l'inclusion a ses limites. On sait qu'une cour de récré avec plein d'enfants... Et je sais pas, j'ai oublié comment, une ATSEM, je crois qu'on appelle ça, c'est pas fait pour Panthéa, qu'elle se sentirait complètement perdue, qu'un enfant qui crie, qui la bouscule, ou qui la frappe, ce qui arrive entre petits, pour elle c'est très violent et qu'elle le vivrait mal parce qu'elle peut pas comprendre la violence. Déjà, elle a grandi dans un milieu où personne ne crie, personne la gronde, on se dispute jamais, personne ne hausse même le ton de la voix sur elle, donc elle est très sensible à la colère des gens, donc si quelqu'un se dispute à côté d'elle, elle panique tout de suite, elle comprend pas pourquoi, elle comprend pas la colère, la violence, elle peut pas la relativiser. Donc un enfant qui la frappe, elle va se dire ce lieu est mauvais parce que je me fais frapper. Donc elle a aucun recul sur ce qui lui arrive. Donc je sais que c'est pas adapté pour elle. Donc on le vit très bien.
Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Tout. C'est-à-dire ma vie déjà, elle a changé du tout au tout. Avant, ça fait toujours rire les gens quand je dis ça, mais j'étais vraiment la petite pouf. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Obsédée par son physique, obsédée par le shopping. Je passais ma vie à voyager, à aller dans des restos branchés, à faire du shopping, à faire des apéros avec mes copines. Enfin, c'était vraiment l'insouciance totale. Je travaillais limite pas. Et dès l'instant que j'ai été maman, ça a complètement bouleversé ma vie et ça a complètement bouleversé celle que j'étais parce que j'ai toujours été une hypersensible. Mais je vivais tellement dans ma bulle superficielle que j'arrivais à faire avec mon hypersensibilité. Et en fait, avec Panthéa, déjà, ça a exacerbé tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte de ce que j'avais vraiment envie d'être, de ce que j'avais vraiment envie d'accomplir et de ce que je voulais plus dans ma vie. Donc, je suis passée du tout au tout, en fait. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre du physique. Parfois, je me plains parce que j'ai pris du poids ou que mes cernes, elles sont marquées, que j'ai des cheveux blancs parce que... Mais je suis vraiment revenue à l'essentiel, quoi. J'ai une vie hyper simple. Je sors quasiment jamais. Des fois, quelqu'un me dit, bon, là, il faut que je sorte prendre l'air, mais j'y arrive pas encore. J'adore passer des moments en famille. Je peux pas imaginer des vacances. Souvent, les gens me disent, mais partez un week-end en amour. Mais ça va pas. Non. Si on a deux jours off, déjà, qu'on travaille beaucoup, c'est pour les passer avec notre fille. J'ai perdu beaucoup d'amis. Sans regret. Parce que quand on vit des choses très difficiles, on devient un peu intransigeant sur tout ce qui nous entoure. Et puis surtout quand ça touche les enfants, ça touche les tripes, ça touche à l'âme. Et en fait, quand les gens sont pas là ou qu'ils prennent les choses à la légère, on peut plus les regarder, on peut plus leur parler, on peut plus leur faire confiance. Et c'est déjà tellement une injustice de la vie. Il y a déjà tellement de colère qu'on doit canaliser en nous qu'on est obligé de se concentrer sur que le positif et l'essentiel. Et la moindre négativité, aujourd'hui, je l'élimine de ma vie. Quelles que soient les conséquences que ça pourra avoir pour moi sentimentalement ou émotionnellement, je dégage. C'est-à-dire que je veux que du positif, je veux que des gens qui croient en Panthéa, qui croient en nous, qui nous aiment vraiment, parce qu'on a très peu de temps et le peu de temps qu'on a, on veut vraiment l'avoir avec des gens en qui on a confiance et pour qui on a énormément de respect. Mais sinon, je trouve que ça fait de moi une jolie personne, alors qu'avant, j'avais pas beaucoup de trucs... intéressant à apporter à mon entourage, à part des apéros et des bonnes blagues. J'ai gardé les bonnes blagues parfois, j'ai une vie beaucoup plus calme et j'ai des objectifs bien plus sérieux. Et aujourd'hui, j'ai un être qui dépend entièrement de nous et on ne sera pas si un jour elle pourra être indépendante. Donc le but pour nous, c'est de faire en sorte qu'elle manque jamais de rien et que si un jour nous, on n'est plus là, qu'elle continue à ne manquer de rien. Quoi. C'est vraiment ça.
Et du coup, vous avez pour objectif d'avoir un deuxième enfant, potentiellement ?
Ouais, ça fait quelques années déjà. Mais comme on ne savait pas ce qu'avait Panthéa et que la généticienne nous avait bien dit « Attention, vous avez peut-être la version light de ce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. » Mais il s'avère que si vous en avez un deuxième, peut-être que le deuxième n'aura pas autant de chance et il risque d'avoir une version peut-être plus grave de cette maladie. Donc attendez qu'on sache ce que c'est. Et c'était un peu difficile parce que je me rappelle que Cadio, il m'a dit un jour, en gros, t'es en train de me dire que si on savait qu'on avait un deuxième Panthéa, on t'avorterait. Donc c'est un peu spécial de se dire ça. Et je lui dis non, moi je me dis juste que imagine que Panthéa soit la version jolie de ce qui risque de nous arriver si on en avait un deuxième. Et maintenant, on sait qu'on n'est pas porteur, aucun de nous deux, et qu'on peut donc avoir un deuxième enfant sans risque. Donc oui, on en veut un deuxième. Et pour nous, et surtout, c'est que c'est pas joli de dire ça, mais je me dis souvent. Il faut qu'elle ait un frère et une sœur, peut-être même plusieurs frères et sœurs, parce que il faut qu'il y ait quelqu'un pour elle, toujours. Même quand nous, on sera plus là, il faut que je me dise c'est pas grave, elle a son frère, elle a sa sœur, mais il y a quelqu'un qui est là pour elle. Et ça, c'est vraiment important. Et en plus, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Et donc, quand j'ai eu ma fille, j'étais très heureuse. Et des fois, je me dis, ça serait bien aussi, j'ai eu mon enfant extraordinaire, donc j'ai vécu une maternité rare, puisque j'ai élevé un enfant qui n'est pas comme les autres enfants. On a vécu des étapes qui ne sont pas celles que vivent les parents ordinaires. Et j'aimerais bien avoir l'insouciance de l'enfant normal aussi. Et des fois quand on voit des petits avec Adio, je lui dis mais t'as vu, il est tout petit, t'as vu ce qu'il arrive à faire, c'est impressionnant quand même. Mais aussi petit, il arrive à dire autant de trucs, il y a plein de choses comme ça. Il me dit ça doit être rigolo quand même d'avoir un enfant qui parfois même je regarde des stories d'amis à moi blogueuses ou influenceuses et quand je regarde les stories je vois leurs enfants parler ou faire des trucs, grimper à un truc, je me dis c'est rigolo quand même tout ça aussi. Nous on vit des trucs complètement différents, alors tout est plus intense je pense chez nous. Parce que le moindre progrès, même anodin, qui passerait complètement inaperçu dans une autre famille, chez nous, c'est l'événement du siècle. Mais j'aimerais aussi vivre cette part d'insouciance avec un enfant dit ordinaire.
Et ça t'inquiète de retomber enceinte ou...
forcément. Déjà, moi, je fais partie des gens, dès que ça va un peu bien, je me dis, oh, c'est sûr, il va se passer un truc. Tout va trop bien. Comme on n'a pas été trop épargné dans la vie, je me dis, c'est sûr, il va y avoir une galère. Et là, je me dis, fallait le faire, t'es à 250K dans le monde, c'est tombé sur toi. Donc, le deuxième, qu'est-ce que ça va être? Genre, qu'est-ce que la vie nous réserve? D'un autre côté, je suis un peu rassurée parce que la gynécienne nous a dit, même si aucun de vous deux n'est porteur, quoi qu'il arrive, à 12 semaines de grossesse. Alors, c'est comme une amniocentèse, mais ça s'appelle pas amniocentèse, mais on fera quand même le test. Mmh. Du coup, on lui a dit, bah, on a attendu 10 mois les résultats, donc s'il faut attendre 10 mois pour avoir les résultats, ce sera trop tard. Elle a dit non, parce que là, on sait ce qu'on cherche. Donc, du coup, on y va tout de suite. On regarde si l'enfant est porteur. Et s'il est, si, bah, alors, il y en a, enfin, oui, elle n'est pas porteur, c'est bon, on continue la grossesse. Voilà. Donc, ça va me rassurer, quand même.
On va passer aux petites questions de la fin d'épisode.
D'accord.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Je crois que c'est vivre déjà à 100 à l'heure, jongler avec plein de trucs. Enfin, je pense que finalement, c'est comme toutes les mamans. Hein. Sauf que à Paris, tu as, je sais pas, la désagréabilité des gens, les bouchons et la pollution en plus. Mais sinon, je crois qu'on vit toutes la même chose.
Est-ce que tu as un endroit kids-friendly à Paris où tu aimes bien aller ?
On fait très peu d'endroits... d'adultes avec Panthéon, parce que on part du principe quand on passe du temps avec elle, en fait, c'est pour elle et pas pour nous. Donc, on a plus tendance à l'emmener, je sais pas, à Disney, à la ferme, au jardin d'acclimatation. Enfin, quand on sort, c'est pour elle qu'elle passe du bon temps, quoi. Donc, on, voilà. Et puis, on sait que passer toutes deux heures dans un restaurant à bruncher, ça a aucun intérêt pour elle. Donc, on lui impose pas ces trucs-là.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille?
Tout est lié, nous, parce que comme on travaille en famille déjà, en fait, projet en famille, ça serait, oui, d'agrandir la famille, j'aimerais beaucoup. Trouver le temps de pouvoir agrandir la famille et puis de mettre un peu le haut là aussi sur le travail parce qu'on s'est vraiment beaucoup épuisé. On se rend pas compte qu'en fait, émotionnellement et physiquement, on commence aussi à saturer parce qu'on a vécu beaucoup de choses et quand t'avances très vite, t'as tendance à pas t'arrêter pour voir et puis. Tu dis c'est bien de se poser, de respirer un peu. Donc c'est aussi travailler un peu moins.
Merci beaucoup Mona.
Je t'en prie avec plaisir.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Mona, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 24 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.